choisi la première pour journaliste François Saltiel qui publie La Société du Sans Contact chez Flammarion. C'est un essai, mais c'est aussi un livre qui fait peur, mais peur avec des histoires vraies. Comment les réseaux sociaux sont pensés pour que nous y perdions un maximum de temps? Comment une entreprise comme Uber déshumanise le contact avec ses chauffeurs pour nous proposer bientôt un service sans chauffeur? On y parle aussi du management inhumain dans les GAFAM, des dizaines d'anecdotes qui dessinent au cours du livre les contours d'un monde sans contact humain, où des entreprises peuvent prendre le pouvoir sur notre vie privée. Bonjour François Saltiel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, réalisateur et producteur. On vous connaît notamment pour vos chroniques dans l'émission 28 minutes sur Arte. Quand on lit les anecdotes sur ce qui se passe chez Uber notamment, où 3500 employés ont été licenciés en 3 minutes par Zoom, sur ce qui se passe en Chine aussi, où les citoyens sont désormais notés par l'État qui peut aller jusqu'à changer la sonnerie de leur téléphone s'ils ont un mauvais score, on peut penser que la dictature numérique est encore loin de nous. Mais quand on lit votre livre, on se dit qu'en fait, elle est vraiment pas loin. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu montrer, que c'est maintenant déjà là ?
Oui, je crois que c'est maintenant déjà là, enfin pas directement chez nous, en tout cas en Europe, enfin pas de la manière dont vous le décrivez à l'instant en Chine, où la Chine, on a vraiment le terrain et le laboratoire d'une dictature numérique, c'est-à-dire que c'est un pays qui utilise tous les outils de la surveillance, les caméras de visioconférence, les caméras de visio-surveillance, l'analyse de l'ADN, la traçabilité, pour finalement installer une forme de terreur. Et tous ces outils-là, aussi jouer sur ce qu'on appelle la ludictature, c'est comment par le biais du jeu, on va par exemple favoriser des comportements de délation. Quand je dis du jeu, c'est obtenir des points, donc on est dans quelque chose finalement d'assez ludique. On va chercher un point en pointant du doigt le mauvais comportement de son voisin et ça ne nous donne pas l'impression de faire de la délation, mais pour le temps c'en est une. Et on voit bien qu'il y a eu des comportements comme cela qui sont arrivés aussi chez nous en Europe. On voit bien aussi que les outils de surveillance, notamment le développement de la reconnaissance faciale qui se fait de plus en plus importante, par exemple ici en France, menacent finalement sur nos libertés privées. Et même si derrière on a toujours un bon objectif qui est louable, hein, qui est la lutte souvent contre le terrorisme, mais on se rend bien compte que parfois c'est au détriment de nos libertés, et c'est ça qu'il faut interroger aujourd'hui, parce que comme vous le disiez, on y est. Je pense que ça va faire partie des enjeux d'aujourd'hui et de demain.
Alors, vous parliez de reconnaissance faciale. On découvre pas mal de choses hein, dans ce livre, notamment, donc on ne va pas pouvoir tout dire évidemment, mais que la justice prédictive, eh bien, ça existe déjà. Et c'est d'ailleurs lié à cette reconnaissance faciale. Expliquez-nous.
Bah, aux États-Unis, par exemple, il y a de plus en plus de logiciels qui sont d'ailleurs lancés et conçus par des entreprises privées, mis à disposition des forces de l'ordre, des forces de police dans différents États pour qu'ils puissent analyser en fonction des données et de la data qui pourrait potentiellement avoir un comportement suspicieux et donc commettre un acte criminel. Et ces données-là, elles sont enregistrées à partir des zones géographiques où on estime qu'il y a plus ou moins de criminalité, des profils où on établit une potentialité de récidive. Donc on est vraiment dans une sorte de minority report, c'est-à-dire qu'on va estimer que dans telle zone, à partir de telle heure, selon telle catégorie éthique, socio-professionnelle, on peut plus ou moins être habilité à commettre un acte criminel. Donc on est vraiment dans l'algorithme prédictif et on s'est bien rendu compte que ces algorithmes sont vulnérables, qu'il y a beaucoup d'effets pervers sur ces logiciels, notamment des biais racistes. C'est-à-dire que dans la manière dont ils sont programmés, en fonction des statistiques, on peut arriver ensuite à des comportements racistes, c'est-à-dire à des applications et des outils qui visent principalement aux États-Unis la communauté afro-américaine, par exemple. Ça a été prouvé par différentes études et dénoncé par des associations de défense des libertés.
Alors, quelles sont, à votre avis, les failles qui ont permis ça? C'est-à-dire les failles à la fois peut-être dans nos démocraties, mais aussi les failles peut-être chez nous, en fait, humains.
Ah, il y a plusieurs failles. La première, c'est qu'on a tendance à accepter aussi le progrès assez facilement sans trop l'interroger, en partant du principe que le progrès, c'est forcément avancer. Mais il y aurait toute une question philosophique, même de définition, qu'il faudrait avoir sur le progrès. Est-ce qu'une nouvelle technologie qui vient de voir le jour, est-ce qu'elle est forcément positive? Est-ce qu'elle est forcément bonne pour nous? Donc on a tendance toujours à accepter. Quand je dis nous, c'est le monde politique, le monde des industriels, et puis nous, le public, on est les premiers aussi à se jeter sur, je ne sais pas, par exemple, le dernier assistant vocal dans sa maison qui nous permet permet de descendre notre store ou d'allumer notre télévision par la commande vocale, sans forcément s'interroger sur ce que cette technologie peut avoir comme conséquences négatives. En l'occurrence, un micro qui est peut-être en permanence enregistré chez nous, qui peut analyser nos comportements, analyser notre voix, puis même à se demander l'intérêt. Quel est l'intérêt que je demande à une application de fermer mon store si je peux le faire moi-même? Donc il y a quand même déjà cette tendance naturelle que l'on a, poussée par le marketing, la publicité, les industries, à toujours aller vers la technologie suivante. Et la seconde chose, c'est qu'on voit bien qu'il y a quand même eu tout un modèle aujourd'hui qui s'est développé dans l'industrie du numérique. C'est quand même le modèle de la prédiction, de la publicité ciblée, c'est-à-dire qu'on doit être catalogué, analysé en fonction de nos comportements. Et c'est bien cette industrie-là, l'analyse de nos comportements, qui fait fructifier ces grandes entreprises comme Google. Donc tout converge finalement pour aller vers une société de plus en plus ciblée, programmée, pour pouvoir, et j'exagère, mais presque nous transformer en des numéros, en des profils, et plus véritablement en des humains différents, nuancés, qui peuvent parfois aussi penser contre eux-mêmes, être dans des conversations réelles, et non pas uniquement dans des bulles de filtre, comme on peut le voir dans certaines applications.
Alors, vous parlez de notre facilité à adopter les progrès. Il y a quelque chose qu'on a tous adopté récemment. Ce sont les réunions par visioconférence, l'application Zoom, dont vous parlez beaucoup aussi dans votre livre. Et vous soulignez un aspect du télétravail dont on parle très peu, et que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'il facilite les licenciements. Parce qu'on ne se rend pas compte si quelqu'un est là ou plus là, puisqu'on n'est plus, personne n'est au bureau, donc on a plus ce rapport avec ses collègues. Et puis ça complexifie la mobilisation syndicale aussi, vous dites. Expliquez-nous.
Oui, en fait, tout ce que j'essaie de décrire dans ce livre, La société du sans-contact, c'est comment finalement l'humain a tendance à devenir invisible, comment on est éloignés les uns des autres à travers cet écran, sous une apparence d'hyperconnexion. Et le télétravail, c'est un peu ça, c'est-à-dire que logiquement, vous êtes avec vos collègues autour de la machine à café, dans un même bureau, vous vous voyez, vous percevez aussi des choses qui ne sont pas forcément exprimées, mais vous sentez quand votre collègue n'est pas bien, quand elle est fatiguée, quand elle se sent mal, parce qu'il y a un contact visuel. À partir du moment où vous êtes seul chez vous, et puis votre collègue est seule chez elle, derrière un écran, vous ne la voyez plus, il n'y a plus du tout ce contact. Le jour où elle est malade, vous ne le savez même pas, et le jour où elle se fait licencier, vous n'en êtes même pas au courant. Donc tout ça, c'est un impact négatif sur nos liens sociaux. Et puis vous savez aussi, parfois la bonne idée au travail, elle naît entre deux services qui n'étaient pas habilités à se rencontrer et puis qui va se rencontrer de manière fortuite. Donc tout ça, tous ces échanges qui font aussi le bonheur aussi d'une activité professionnelle, j'entends bien quand elle se passe dans des conditions correctes, c'est déjà quelque chose en moins. Et ensuite, pour l'employeur, c'est une facilité, parce que ça évite finalement la réunion, la convergence aussi des luttes, des revendications. Et donc le télétravail, c'est une forme d'anéantissement de la revendication syndicale, puisqu'on n'est plus ensemble pour pouvoir pointer du doigt des conditions qui seraient défavorables. Et c'est pas étonnant que ce soit les entreprises de la tech qui, dès le départ, ont prôné le télétravail à vie, comme Twitter, comme Facebook, quand on voit justement leur position, leur point de vue sur leur présente l'intérêt d'un syndicat, ils sont les premiers à dire que les syndicats ne servent à rien. Donc vous voyez, le télétravail, c'est une forme d'invisibilité du travailleur qui fait qu'on est chacun chez soi derrière un écran, sans avoir aussi une notion globale de ce qu'on fait dans notre travail. C'est un peu un travail à la chaîne, c'est un peu une atomisation. On n'est plus ensemble, en groupe, vers un objectif commun. Donc le télétravail, c'est très intéressant, je pense, à petite dose, de manière très conjoncturelle, quand la situation l'oblige. Mais si ça devient une norme, ça devient un modèle, je pense que là, ça peut devenir problématique pour notre sociabilité.
Ça pose aussi des questions, évidemment, d'atteinte à la vie privée. Évidemment, quand on est tous en téléconférence, on s'est tous dit qu'il fallait peut-être qu'on change de salon ou qu'on mette les bons livres derrière l'écran pour qu'on voit qu'on lit des livres vraiment très, très intéressants et ceux qu'il faut lire. Il y a un contre-pouvoir aussi dont vous parlez à plusieurs reprises dans le livre, c'est la CNIL. Alors, la CNIL, c'est en France, évidemment, en Belgique. On a aussi l'autorité de protection des données qui est toute récente. Dans votre livre, c'est la CNIL qui arrive. On a l'impression que c'est le seul organisme qui arrive un peu à faire plier les pouvoirs publics et les entreprises lorsqu'ils ne respectent pas la vie privée. Est-ce que c'est suffisant selon vous, ou est-ce qu'il faut d'autres organismes, d'autres moyens de contrôle ?
Alors il y a effectivement la CNIL, il y a aussi des associations quand même, comme la Quadrature du Net ici en France, qui est assez présente, c'est-à-dire des citoyens éclairés qui pointent du doigt et qui évitent justement qu'on mette en place différentes installations. J'en pense à une, c'est notamment à Nice, où le maire de Nice avait mis en place un portique de reconnaissance faciale à l'entrée des lycées. En tout cas, il avait fait l'expérience sur deux lycées. Vous imaginez, vous êtes lycéen, vous devez passer à travers un portique qui va identifier votre visage pour savoir si vous avez bel et bien l'endroit, le droit de rentrer dans ce lycée, combien de temps vous y restez, et ensuite être traçabilité. Donc là, on est vraiment dans un scénario que personne ne veut voir. C'est évidemment pas suffisant, la CNIL, parce que c'est que quelques personnes face à quantité d'industriels, une volonté politique, une volonté aussi philosophique de surveiller la population qui est forte. Donc ce n'est pas suffisant, c'est un tout petit garde-fou, mais au moins il existe. On voit que dans d'autres pays où la CNIL est inexistante, où les associations sont peut-être moins présentes, eh bien ça va beaucoup plus vite pour mettre en place justement toutes ces installations qui sont sécuritaires et qui menacent nos libertés privées. Donc votre réponse, non, ce n'est pas suffisant, mais justement il faut la préserver. Il faut se rendre compte aussi en tant que citoyen à quel point ces institutions-là sont nécessaires pour eux, sont là pour eux, et peut-être s'engager aussi en tant que citoyen dans d'autres associations pour aller justement aider.
Merci à vous François Saltiel, à la fois pour ce livre et puis aussi pour réveiller nos consciences et cet appel donc à la citoyenneté. Ça s'appelle La Société du Sans Contact, c'est paru chez Flammarion.